Bien, bonjour à tous. Le mois de mai à Paris, c'est formidable. C'est formidable aussi pour notre vie intellectuelle. On a souvent la chance d'avoir des collègues, je ne sais pas pourquoi, qui trouvent que mai à Paris est mieux que janvier ou février. Et donc, on est très heureux de les accueillir en règle générale, et évidemment en particulier quand c'est Nancy Fraser qui vient... parmi nous, comme Hervé d'ailleurs, elle est titulaire d'une chaire au Collège d'études mondiales. C'est une grande joie pour nous à chaque fois de maintenir, de développer, d'entretenir des relations qui sont toujours un mélange de relations intellectuelles et de relations amicales, on peut le dire. Et donc je ne vais pas présenter Nancy Fraser, tout le monde ici la connaît bien, donc pas de longue présentation. Nancy, on te remercie d'être parmi nous. Alors, juste deux informations. Première information, la dernière séance du séminaire, c'est mercredi prochain. Normalement, ceux qui participent à ce séminaire ont dû recevoir un email. On est tous un peu à bout de souffle. L'année a été très dense et le contexte, en plus, est très compliqué. Deuxième information qui concerne la séance d'aujourd'hui, Nancy va s'exprimer en anglais et je résumerai, à moins que tout le monde comprenne l'anglais, et je résumerai de temps à autre. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de se résumer ? Il faut le dire très franchement. C'est mieux. Donc, je ne traduirai pas in extenso, mais je résumerai ce qu'elle va nous présenter, si ça vous convient. Donc, voilà, Nancy, je découvre, en même temps que je te donne la parole, je découvre ton texte, mais je vais suivre surtout ce que tu vas nous dire, donc, et je vais essayer. Voilà. Donc, Nancy, c'est à toi. Un grand merci.
Mais c'est moi que te remercie et merci pour le public qui est venu. I'm going to speak about the elephant in the room, Donald Trump, but only as a symptom of a much wider political crisis. And I want to qualify that this crisis seems at first sight to be political, but I'm going to suggest that actually it's bigger than that.
Donc, je vais vous parler de Trump comme symptôme d'une crise qui, à première vue, est politique, mais qui en réalité est beaucoup plus large.
It's not just Trump, after all, but the analogues elsewhere in the world, the Brexit debacle in the UK, the waning legitimacy of the European Union and the disintegration of all the social democratic and center-left parties that supported it, the rise of racist anti-immigrant parties throughout Northern and East Central Europe, the upsurge everywhere of authoritarian forces, India, Turkey, Latin America. If this is a political crisis, it is not simply national or even regional, but global.
Donc, la crise, elle est partout. Le Brexit, les difficultés de l'Union européenne, la désintégration des gauches et des centres-gauches, des social-démocraties, le racisme, en particulier anti-immigré, partout aussi la montée des autoritarismes. Bref, la crise est globale et pas seulement politique.
I want to suggest that all of these developments that I've mentioned share a common feature. All involve a dramatic weakening, if not a simple breakdown, of the authority of the established political classes and political parties. It's as if masses of people throughout the world had suddenly stopped believing in the reigning common sense that had underpinned political rule for the last several decades.
Et donc, tout ceci vient marquer la crise des partis politiques, des élites politiques, de la classe politique.
Okay. Got the double-sided. So, as I said before, though, the political aspect is only one part of the story. The developments that I've just invoked constitute the specifically political strand of a broader, multifaceted crisis, which also has other strands, economic, ecological, and social, all of which taken together add up to a general crisis. Far from being merely sectoral, the political crisis cannot be adequately understood apart from the blockages to which it is responding in other seemingly non-political institutions. In the United States, those blockages include the metastasization of finance, the proliferation of precarious service sector McJobs, ballooning consumer debt to enable the purchase of cheap stuff produced elsewhere, conjoint increases in carbon emissions, extreme weather, and climate denialism, racialized mass incarceration and systemic police violence, and diminished social supports.
Alors, la liste d'un certain nombre de problèmes. Dans le monde de la finance, la précarité, le fait qu'on produise ailleurs des biens à très bon marché, le carbone, le CO2, le changement climatique, et puisqu'elle parle plus particulièrement des États-Unis, les incarcérations massives et la violence policière.
D'accord. Together, these forces have been grinding away at our social order for quite some time without producing a political earthquake. Today, however, all bets are off. In today's widespread rejection of politics as usual, an objective system-wide political crisis has found a subjective political voice. The political strand of our general crisis is a crisis of hegemony.
Donc l'aspect politique, je résume, l'aspect politique de cette crise, c'est une crise d'hégémonie.
C'est ça. Donald Trump, of course, is the poster child for this hegemonic crisis, but we cannot understand his ascent unless we clarify the conditions that enabled it. And that means identifying the worldview that Trumpism displaced and charting the process through which it unraveled.
Donc, Trump, c'est l'incarnation de cette crise hégémonique, mais si on veut le comprendre, il faut connaître la vision du monde que le Trumpisme a déplacé, à laquelle Trump a mis fin d'une certaine façon, et les processus à travers lesquels cette vision à lui s'est mise en place.
In my view, the indispensable ideas for this purpose come from Antonio Gramsci. Hegemony, after all, is his term for the process by which a ruling class naturalizes its domination by installing the presuppositions of its own worldview as the common sense of society as a whole. Its organizational counterpart is the hegemonic bloc, which is a coalition of disparate social forces that the ruling class assembles and through which it asserts its leadership. If they hope to challenge these arrangements, the dominated classes must construct a new, more persuasive common sense or counter-hegemony and a new, more powerful political alliance or counter-hegemonic bloc.
En installant sa vision du monde, sa vision de la société comme un tout, et en constituant un bloc hégémonique, c'est-à-dire une coalition de forces diverses que la classe dirigeante rassemble et qui permet d'affirmer son leadership. Et évidemment, face à ça, si on veut contester, si on veut challenger, cette hégémonie, il faut un bloc, enfin il faut des alliances politiques qui créeraient un bloc contre-hégémonie.
C'est ça. Now, to these ideas of Gramsci, I propose to add one more, an idea of my own. Every hegemonic bloc embodies a set of assumptions about what is just and right and what is not. Since at least the mid-20th century in the United States and Europe, if not elsewhere, capitalist hegemony has been forged by combining two different aspects of right and justice, one focused on distribution, the other on recognition.
Donc, pour compléter ces idées de Gramsci, il faut en ajouter une autre, c'est que tout bloc hégémonique met en avant sa conception de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Et jusqu'au moins à la moitié du XXe siècle aux États-Unis et en Europe, l'hégémonie capitaliste s'est forgée en conjuguant deux aspects différents du droit et de ce qui est juste et de la du droit et de la justice, c'est en se focalisant d'un côté sur les phénomènes, enfin sur les logiques de distribution, et d'un autre côté sur celles de reconnaissance, distribution, recognition.
The distributive aspect conveys a view about how society should allocate divisible goods, especially income. This aspect speaks to the economic structure of society and, however obliquely, to its class divisions. The recognition aspect expresses a sense of how society should apportion respect and esteem, the moral marks of membership and belonging. Focused on the status order of society, this aspect refers to its status hierarchies.
Donc, en ce qui concerne la distribution, ça renvoie à la structure économique de la société et finalement à des divisions de classe. En ce qui concerne la reconnaissance, ça renvoie plutôt au problème de respect, d'estime, à des questions morales de qui appartient à quoi et qui est membre en quelque sorte de la société. Et donc c'est une question de statut social et ça renvoie finalement à des hiérarchies de statut.
Together, distribution and recognition constitute the essential normative components out of which hegemonies are constructed. Putting this idea together with Gramsci's, we can say that what made Trump and Trumpism possible was the breakup of a previous hegemonic bloc and the discrediting of the distinctive normative nexus, or rather of its distinctive normative nexus, of distribution and recognition. By parsing the breakup, the construction and the breakup of that nexus, we can clarify not only Trumpism, but also the prospects post-Trump for a counter-hegemonic bloc that could resolve the crisis.
Donc, si on suit cette image de la distribution et de la reconnaissance comme composant essentiel, normatif de ce qui construit les hégémonies, alors, si on ajoute ça aux idées de Gramsci, on peut dire que ce qui a fait Trump et le Trumpisme possible, c'est l'effondrement d'un bloc hégémonique antérieur, du bloc hégémonique précédent, le discrédit qui s'attache à la façon dont ce bloc pensait la distribution et la reconnaissance. Et si on comprend ça, alors on va pouvoir clarifier ce qu'est le Trumpisme, mais aussi réfléchir au post-Trump. Et donc, à la conception qu'on pourrait avoir d'un bloc contre-hégémonique qui permettrait de dépasser, de résoudre la crise.
Prior to Trump, the hegemonic bloc that dominated American politics was progressive neoliberalism. That might sound like a contradiction in terms, but it was a real and powerful alliance of two unlikely bedfellows. On the one hand, mainstream liberal currents of the new social movements, by which I mean feminism, anti-racism, multiculturalism, environmentalism, and LGBTQ rights. On the other hand, the most dynamic, high-end, symbolic, and financial sectors of the US economy, which is to say Wall Street, Silicon Valley, and Hollywood. What held this odd couple together was a distinctive combination of views about distribution and recognition.
Donc, dans la période précédente, il y avait un couple étrange qui fonctionnait avec, en même temps, un oxymore, dit-elle, avec en même qu'on peut appeler le néolibéralisme progressiste, avec d'un côté des courants qui se reconnaissaient dans les nouveaux mouvements sociaux, féminisme, antiraciste, multiculturaliste, environnementaliste, etc., d'un côté, et d'un autre côté, les secteurs les plus dynamiques de l'économie américaine, Wall Street, Silicon Valley et Hollywood. Et ce qui faisait marcher tout ça ensemble était une combinaison d'idées sur la distribution et sur la reconnaissance. C'est ça.
The progressive neoliberal bloc combined an expropriative plutocratic economic program with a liberal meritocratic politics of recognition. The distributive component was neoliberal, determined to unshackle market forces from the heavy hand of the state. The classes that led this bloc aimed to liberalize and globalize the capitalist economy. What that meant in reality was financialization, the dismantling of barriers to and protections from the free movement of capital, the deregulation of banking and the ballooning of predatory debt, deindustrialization, the weakening of unions, and the spread of precarious, badly paid work. Popularly associated with Ronald Reagan, but substantially implemented and consolidated by Bill Clinton, these policies hollowed out working class and middle class living standards while transferring wealth upward, chiefly to the 1%, of course, but also to the upper reaches of the professional managerial classes.
Alors, ce bloc progressiste et néolibéral combinait une politique d'expropriation, une politique d'expropriation économique plutocratique et une politique libérale méritocratique de reconnaissance. D'un côté, donc, la distribution pensée de façon néolibérale, avec l'idée qu'il faut libérer les forces du marché de l'emprise de l'État, qu'il faut globaliser l'économie capitaliste et la libérer en même temps. Et en réalité, tout ça, c'était la logique de la financiarisation. Il fallait défaire les barrières, en finir avec les protections, vivre le mouvement libre du capital, déréguler les activités bancaires, laisser la bulle de la dette se développer, accepter la désindustrialisation, l'affaiblissement des syndicats, l'élargissement de tout ce qui est travail précaire, ou très mal payé, et tout ça a été associé non seulement à Ronald Reagan, mais aussi ça a été développé, mis en place par Bill Clinton, et ces politiques finalement reposaient sur des standards qui étaient ceux des classes moyennes, hein, ouvrières, enfin des travailleurs, des classes du travail et des classes moyennes, mais avec le transfert, en même temps on transférait la richesse vers le haut, vers les 1% des Américains les plus riches, mais aussi vers les classes qu'on appelle professionnelles hauts, hein, c'est-à-dire vraiment les, oui, les élites professionnelles.
Comme le montrait Piketty, par exemple.
Voilà.
Okay. Progressive neoliberals did not dream up this political economy. That honor belongs to the right, to its intellectual luminaries Friedrich Hayek, Milton Friedman, and James Buchanan. To its visionary politicians, Barry Goldwater and Ronald Reagan, and to their deep pocket enablers, Charles and David Koch, among many others.
Bon, alors, les progressistes néolibéraux n'ont pas, c'est pas eux qui ont pensé cette, ou qui ont rêvé cette économie politique. L'honneur en revient à la droite et à ses intellectuels. Comment dirais-je, les plus significatifs, hein, Hayek, Friedman, James Buchanan, et aussi à ces politiciens visionnaires, tout ça c'est les Américains bien sûr, Barry Goldwater et Ronald Reagan, à ceux aussi deep-pocketed, je ne sais pas ce que c'est.
These mega donors. Businessmen who endow the right-wing think tanks.
Ah, et donc les gens qui financent, les gens richissimes qui financent les think tanks de droite américains comme Charles et David Koch. Bon, et ça c'est une chose.
But the right-wing version of neoliberalism could not become hegemonic in a country whose common sense was still shaped by New Deal thinking, by the so-called rights revolution, and by a slew of social movements descended from the new left. For the neoliberal project to triumph, it had to be repackaged, given a broader appeal linked to other non-economic aspirations for emancipation. Only when decked out as progressive could a deeply regressive political economy become the dynamic center of a new hegemonic bloc.
Mais si on veut comprendre comment cette vision fondamentaliste cette vision fondamentaliste du néolibéralisme a pu être développée par la droite et devenir hégémonique, alors un pays où il y avait eu le New Deal, un pays où il y avait eu la révolution des droits, un pays où il y a eu des mouvements sociaux en liaison avec la New Left, bon, pour que ce projet néolibéral puisse triompher, il fallait le reconfigurer et par conséquent proposer quelque chose qui réponde aux aspirations non économiques d'émancipation. Bon.
It fell, as things turned out, to the so-called New Democrats, that's the Clinton wing of the Democratic Party, to contribute the essential ingredient, a progressive politics of recognition. Drawing on progressive forces from civil society, they diffused a recognition ethos that was superficially egalitarian and emancipatory. At the core of this ethos were ideals of diversity, women's empowerment, LGBTQ rights, post-racialism, multiculturalism, and environmentalism. But these ideas were interpreted in a specific, limited way that was fully compatible with the Goldman Sachsification of the US economy. Protecting the environment meant carbon trading. Promoting home ownership meant subprime loans bundled together and resold as mortgage-backed securities. Equality meant meritocracy.
Donc si on regarde ce que proposaient les nouveaux démocrates, on s'aperçoit qu'ils ont proposé un nouveau concept pour la reconnaissance, qui reposait au départ sur des forces de progrès dans la société civile. Et donc ces gens-là ont diffusé, ces nouveaux démocrates, Clinton, ont diffusé une éthique de la reconnaissance qui apparemment, superficiellement, était égalitaire et permettait l'émancipation. On parlait de diversité, de capacité des femmes à être plus proches du... Empowered, c'est un mot que je n'ai jamais su traduire. Avoir accès au pouvoir. Un peu,
oui. Bon. C'est un buzzword de l'UN, les Nations Unies. Oui.
L'empowerment, c'est prendre du pouvoir, disons. Les droits des lesbiennes, gays, etc. Le post-racialisme, le multiculturalisme, l'environnementalisme. Mais toutes ces idées ont été interprétées d'une manière très singulière, très limitée, tout à fait compatible avec la Goldman Sachs salsification, avec la financiarisation de type Goldman Sachs et avec de l'économie américaine. Protéger l'environnement, ça voulait dire faire du business avec le carbone, promouvoir la propriété de son logement, c'était en réalité promouvoir les subprimes et tout ce qui a conduit à la grande crise. L'égalité, en réalité, signifiait la méritocratie.
I want to say a little bit more about meritocracy because that's really the central question, I think. The progressive neoliberal program for a just status order did not aim to abolish social hierarchy, but to diversify it, to empower talented women, people of color, and sexual minorities to rise to the top. This ideal was inherently class specific, geared to ensuring that deserving individuals from underrepresented groups could attain positions and pay on a par with the straight white men of their own class. The feminist variant is telling, focused on leaning in and cracking the glass ceiling. Its principal beneficiaries could only be those already in possession of the required social, cultural, and economic capital. Everybody else would be stuck in the basement.
Donc la question était celle de la, enfin la question importante était celle de la méritocratie. En gros, le programme néolibéral consiste à valoriser ceux qui ont des ressources, du talent, qu'ils soient des hommes de couleur, des minorités sexuelles ou autres. Donc on valorise ceux qui ont des ressources pour monter en quelque sorte socialement, et on le voit très bien avec les femmes, et on laisse les autres sur le carreau.
Skewed as it was, this politics of recognition worked to seduce major currents of progressive social movements into the new hegemonic bloc. Certainly not all feminists, anti-racists, multiculturalists, and so on, were won over. But those who were, whether they knew it or not, constituted the largest and most visible segments of their respective movements, while those who resisted were confined to the margins.
Excusez-moi. Et donc cette politique de reconnaissance a été capable de séduire des courants importants, majoritaires même, au sein des mouvements sociaux progressistes qui viennent d'être évoqués. Évidemment, toutes les féministes, antiracistes, etc., n'ont pas rejoint cette cause néolibérale progressiste, mais un certain nombre l'ont fait, sans le savoir ou en le sachant, et ont constitué les forces dominantes de ces mouvements, tandis que ceux qui résistaient à cet appel du néolibéralisme se retrouvaient marginalisés.
Right. The progressives in the progressive neoliberal bloc were, of course, its junior partners, far less powerful than their allies from Wall Street, Hollywood, and Silicon Valley. Yet, they contributed something essential. Charisma, a new spirit of capitalism, to quote Boltonsky and Chapello. Exuding an aura of emancipation, this new spirit charged neoliberal economic activity with a frisson of excitement. Now associated with the forward-looking and the liberatory, the cosmopolitan and the morally advanced, the dismal economy suddenly became thrilling. And thanks in large part to this ethos, policies that fostered a vast upward redistribution of wealth and income acquired the veneer of legitimacy.
Donc, cette présence de ces secteurs issus des mouvements sociaux dans la conception, dans l'ensemble du bloc néolibéral progressiste, évidemment, c'était plutôt les juniors que les seniors. Les seniors, c'était quand même Wall Street, Hollywood, Silicon Valley. Mais cette participation donc, de ces personnes qui venaient du monde des mouvements sociaux a contribué à quelque chose de très, à une liaison très dangereuse. Elle a apporté à ce nouveau capitalisme, elle lui a apporté son charisme, elle a apporté à l'activité économique néolibérale quelque chose qui donnait de l'excitation, du frisson, de l'idée de libération, et c'est ça qui est très grave. Hein.
Yeah. To achieve hegemony, however, the emerging progressive neoliberal bloc had to defeat two different rivals. First, it had to vanquish the not insubstantial remnants of the New Deal coalition. Anticipating Tony Blair's New Labour, the Clintonite wing of the Democratic Party quietly disarticulated that alliance and forged a new one of entrepreneurs, bankers, suburbanites, symbolic workers, new social movements, Latinos, and youth, while retaining the support of African Americans who felt they had nowhere else to go. Campaigning for the Democratic presidential nomination in 91-92, Bill Clinton won the day by talking the talk of diversity, multiculturalism, and women's rights, even while preparing to walk the walk of Goldman Sachs.
Donc pour parvenir à ces fins, ce bloc en train de se constituer, ce bloc progressiste néolibéral, d'abord devait se débarrasser des survivants du vieux bloc et en particulier de la coalition qui avait fait le New Deal. Donc, avant même Tony Blair et son fameux New Labour, son nouveau parti travailliste, l'aile gauche de Clinton et du parti démocratique allemand américain a désarticulé la vieille alliance à la place du vieux bloc historique qui avait marché avec les travailleurs, les migrants, les noirs, les classes,
les syndicats,
les classes urbaines moyennes, quelques fractions du capital, du grand capital aussi. Il a forgé, Clinton et cette aile démocrate, une nouvelle alliance avec des entrepreneurs, des banquiers, des gens... alors, suburbanites, c'est des gens des faubourgs. Mais les banlieues américaines, c'est le contraire des banlieues françaises. C'est là où habitent les classes aisées. Hein. Ouais. Donc, bon, des travailleurs du monde symbolique, je ne sais pas ce que c'est exactement...
Les gens advertising,
les gens de la publicité, des gens comme ça,
journalism,
communication, des gens des nouveaux mouvements sociaux, des latinos, de la jeunesse,
IT,
tout ce qui est numérique, disons. D'accord. Et en même temps, ils ont gardé le soutien des Noirs américains, African Americans, qui ne savaient pas trop où aller sinon, donc qui sont allés là. Et donc la chose importante, en 91, Clinton l'a emporté dans la campagne pour savoir qui serait le candidat démocrate, il l'a emporté le jour où il a dit « Moi, je représente la diversité, le multiculturalisme, les droits des femmes », alors qu'en réalité, il préparait les succès de Goldman Sachs.
Progressive neoliberalism also had to defeat a second rival with which it shared more than it led on. In this case, the antagonist was what I would like to call reactionary neoliberalism. Housed mainly in the Republican Party, this second bloc offered a different nexus of distribution and recognition. It combined a very similar neoliberal politics of distribution with a different and quite reactionary politics of recognition.
Mais ce progressiste, ce néolibéralisme progressiste, avait un second concurrent avec qui il partageait beaucoup de choses. Et ce second concurrent, c'est ce qu'on peut appeler le néolibéralisme réactionnaire. Alors, à l'intérieur du Parti républicain, bien moins cohérent que son rival qui dominait, ce deuxième bloc offrait une autre conjugaison de distribution et de reconnaissance. Une vision néolibérale des politiques de distribution, les Français disent plutôt de redistribution d'ailleurs, une vision néolibérale, comme les progressistes, de la redistribution, mais une politique de reconnaissance réactionnaire.
While claiming to foster small business and manufacturing, reactionary neoliberalism's true economic project centered on bolstering finance, military production, and extractive energy, all to the principal benefit of the global 1%. What was supposed to render that acceptable for the base it wanted to assemble was an exclusionary vision of a just status order, ethno-national, anti-immigrant, and pro-Christian, if not overtly racist, patriarchal, and homophobic.
Donc, ce bloc qui parlait au nom plutôt du petit business, des petites entreprises, ce bloc réactionnaire, qui était aussi centré en réalité sur, alors je ne sais pas ce que c'est que bolstering finance,
soutenir
la finance, la production militaire, les énergies extractives, donc le pétrole avant tout, bon, tout ça au bénéfice en réalité du 1% les plus riches. Mais pour rendre ça acceptable par la base, il fallait proposer aussi, il fallait assembler aussi la population qu'on visait pour constituer ce bloc, sur des bases très différentes du bloc progressiste, à savoir ethno-national, anti-immigré, pro-chrétien, et peut-être même, éventuellement, ouvertement, raciste, patriarcal et homophobe.
This was the formula that allowed Christian evangelicals, southern whites, rural and small town Americans and disaffected white working class strata to coexist for a couple of decades, however uneasily, with libertarians, Tea Partiers, the Chamber of Commerce, and the Koch brothers, I mentioned before, as well as a smattering of bankers, real estate tycoons, energy moguls, venture capitalists, and hedge fund speculators.
D'où cette formule où on retrouve des évangéliques, des blancs du Sud, des gens qui viennent, enfin des Américains des petites villes ou des zones rurales, des fractions de la classe ouvrière. Et qui les pousse à coexister pendant deux décennies à peu près, parfois avec quelques difficultés, avec ceux qu'on appelle les libertariens, c'est un courant de, politique, avec les gens du Tea Party, avec la Chambre de commerce, avec les frères Koch, dont j'ai parlé tout à l'heure, plus des banquiers, des tycoons, des capitalistes, etc.
Sectoral emphasis aside, on the big questions of political economy, reactionary neoliberalism did not differ substantially from its progressive neoliberal rival. Now, it's true that the two parties argued a little bit about taxes on the rich, with the Democrats usually caving in. But both of them supported free trade, low corporate taxes, curtailed labor rights, the primacy of shareholder value, winner takes all competition, compensation, and financial deregulation. Both parties elected leaders who sought a so-called grand bargain aimed at cutting entitlements, which is to say pensions and social security. The key difference between them turned on recognition, not distribution.
Alors, si on ne regarde pas les choses partout, si on laisse de côté certains points secondaires, on s'aperçoit qu'en réalité, ces deux opposants, progressistes et réactionnaires, ne se différencient pas beaucoup en matière de redistribution. La vraie différence, elle est dans la reconnaissance.
As it turned out, the progressive neoliberalisms essentially won that battle, but at a cost. What was sacrificed were the decaying manufacturing centers, especially the so-called Rust Belt. That region, as well as the newer industrial centers in the South, took a major hit thanks to three of Bill Clinton's policies: NAFTA, the opening to China, or rather the admission of China to the WTO, and the repeal of the Glass-Steagall banking reforms. Together, these policies and their successors ravaged communities that had lived from manufacturing. In the course of two decades of progressive neoliberal hegemony, neither of the two major blocs made any serious effort to defend those communities. The neoliberals thought that their economies were uncompetitive and should be subject to market correction. The progressives saw them as being stuck in the past, tied to obsolete parochial values that would soon disappear in a new cosmopolitan dispensation. On neither ground, distribution or recognition, could progressive neoliberals find any reason to defend Rust Belt and Southern manufacturing communities?
Donc, d'un côté, le néolibéralisme progressiste l'a emporté à l'époque sur le néolibéralisme réactionnaire, mais cela a eu un coût. Et ce coût, ça a été qu'ils ont sacrifié les régions industrielles, on appelle ça le Rust Belt. Les régions industrielles, j'ai envie de dire, les vieilles industries, les régions à vieille industrie, tout ça en même temps que, sous Bill Clinton, la politique permettait d'aller vers la de faire NAFTA et de mettre en cause le Glass-Steagall Act, je crois que c'est ça. C'est un texte de loi, je précise, c'est une loi très très importante qui, dans le temps, obligeait la dissociation des activités bancaires et des activités d'investissement. Donc ça permettait, c'est ce qui avait été décidé après la crise, la grande crise aux États-Unis pour éviter justement les bulles financières. Donc Clinton a dit, je mets fin à ça, ce qui a redonné donc des possibilités au capitalisme financier. Et donc en deux décades d'hégémonie néolibérale progressiste, aucun, en réalité, des deux blocs importants ici n'ont fait d'efforts pour soutenir ces vieilles communautés industrielles, ces vieilles régions industrielles.
Qui étaient les régions qui ont donné le marge de victoire à Trump.
À Trump, on va y arriver. C'est ce qu'on attend, évidemment. Okay. Et donc, pour les néolibéraux, ces économies liées donc à ces vieilles industries, elles sont non compétitives, il faut que le marché y mette fin, la correction par le marché. Pour les gens qui étaient progressistes, la culture de ces vieilles régions était totalement collée, obsolète, collée au passé, localiste, enfermée sur elle-même, et tout ça devait se dissoudre dans le monde cosmopolite, disons, et ni en matière de redistribution, ni en matière de reconnaissance, les néolibéraux progressistes n'ont trouvé la moindre raison de défendre ces populations de la Rust Belt et surtout des communautés du Sud industriel.
The political universe that Trump upended was therefore extremely restrictive. It was built around the opposition between two versions of neoliberalism, which were distinguished chiefly on the axis of recognition. So one could choose between multiculturalism and ethno-nationalism, but one was stuck either way with financialization and deindustrialization. With the menu limited to these two variants of neoliberalism, there was no force to oppose the decimation of working and middle-class standards of living. Anti-neoliberal projects were severely marginalized, if not simply excluded, from the public sphere.
Alors, dans cet univers, il y avait donc ces deux versions du néolibéralisme qui se distinguaient essentiellement donc dans leur attitude par rapport au problème de reconnaissance. En gros, on choisissait avec ou contre le multiculturalisme ou au contraire donc l'ethno-nationalisme. Mais de toute façon, on était dans la financiarisation, dans la désindustrialisation. Et donc, il n'y avait ni dans un bloc, enfin, ni dans une partie, ni dans une autre, progressive ou réactionnaire du néolibéralisme, il n'y avait de force qui s'opposait à la destruction de la classe ouvrière, des standards de vie de la classe ouvrière ou des couches moyennes. Et donc, tout ce qui pouvait être anti-néolibéral était totalement marginalisé ou exclu de la sphère publique.
Now, this left a sizable segment of the U.S. electorate, victims of financialization and corporate globalization, without a political home. Neither of the two major blocs spoke for them. And so there was a gap in the American political universe, an empty, unoccupied zone where anti-neoliberal pro-working family politics might have taken root. Given the accelerating pace of deindustrialization, the proliferation of precarious low-wage McJobs, the rise of predatory debt, and the consequent decline in living standards for the bottom two-thirds of the American population, it was only a matter of time before someone would proceed to occupy that empty space and fill that gap.
Donc, il s'est constitué un vide social et politique qui attendait d'être rempli.
Un vide hégémonique, on peut dire.
Dans l'hégémonie qui attendait d'être rempli. Et donc, un endroit où, une zone où l'anti-néolibéralisme, les politiques favorables aux familles des travailleurs pourraient s'enraciner. Bon. Quand on était dans une phase donc, d'accélération de la désindustrialisation, de développement du travail précaire, des jobs mal payés, de la dette avec tout ce qu'elle avait de prédateurs, bon, et de déclin considérable du niveau de vie des deux tiers des Américains, de la partie basse, et c'était, il apparaissait un espace nouveau. You do whatever you want.
Okay.
Ça va?
Some assumed that this moment had arrived in 2007-2008, a world still reeling from the worst foreign disaster policy in U.S. history, namely, well, at least until now, the invasion of Iraq, that is, was then forced to confront the worst financial crisis since the Great Depression and a near meltdown of the global economy. Politics, as usual, seemed to fall by the wayside. An African-American who spoke of hope and change ascended to the presidency, vowing to transform not just policy, but the entire mindset of American politics.
Donc, certains disent que le moment où tu as commencé à basculer, 2007-2008, à ce moment-là, on vit la plus grande crise que, financière depuis la Grande Dépression, et arrive un African-American qui parle d'espoir, de changement, et de se transformer non seulement la politique, mais même l'esprit des politiciens américains. C'est Barack Obama qui va proposer de s'écarter de façon nette du néolibéralisme.
He might have seized the opportunity, Obama.
Ah, il aurait pu, pardon, il aurait pu saisir l'occasion
to mobilize a mass support for a shift away from neoliberalism, even in the face of tough congressional opposition. Instead, however, he entrusted the economy to the very Wall Street forces that had nearly wrecked it. Larry Summers and Tim Geithner and so on. Defining the goal as recovery as opposed to structural reform, he lavished enormous cash bailouts on banks that were supposedly too big to fail, but did absolutely nothing remotely comparable for the 10 million Americans who lost their homes to foreclosure during the crisis.
Donc arrive Barack Obama. Qui aurait pu, excusez-moi, j'avais mal suivi ou mal compris, qui aurait pu justement mettre fin à ce, à ce qui avait été évoqué avant, mais qui en réalité a préféré aider finalement le système financier à se récupérer plutôt que de s'occuper des victimes de cette crise, des 10 millions de personnes, d'Américains, 10 millions d'Américains qui avaient perdu leur logement à cause de la crise. La seule exception, ce sera le medical, c'est en matière de santé.
I'm going to go a little faster. In general, then, I'm saying that the overwhelming thrust of Obama's presidency was not the change he spoke of, but rather maintaining the progressive neoliberal status quo. Another chance to fill the hegemonic gap arrived in 2011 with the eruption of Occupy Wall Street. Tired of waiting for redress from the political system and resolving to take matters into its own hands, a segment of civil society seized public squares throughout the country in the name of the 99%. Denouncing a system that pillaged the vast majority in order to enrich the top 1%, relatively small groups of youthful protesters soon attracted broad support, up to 70% of the American people, according to some polls, especially from besieged unions, indebted students, struggling middle-class families, and the growing precariat.
Une autre chance qui aurait pu exister de voir se réduire, de remplir ce fossé s'est produite en 2011, quand est apparu Occupy Wall Street, qui en avait assez d'attendre que le système politique se redresse, hein, et qui avait décidé d'essayer de prendre en main ces enjeux. Et donc, on occupe des gens occupent des places dans tout le pays, au nom des 99% de la population qui n'appartiennent pas aux 1% les plus riches, qui dénoncent la façon dont ce 1% s'enrichit, et c'est des petits groupes de jeunes protestataires, mais qui obtiennent un très très grand soutien, jusqu'à 70% des Américains, selon certains sondages.
Occupy's political effects were contained, however, serving chiefly to re-elect Obama, who adopted the Occupy rhetoric in the campaign of 2012, and got the support of many who would go on to vote for Trump in 2016 on the basis of Occupy rhetoric.
Donc Obama va, je vais le dire comme ça, surfer sur Occupy Wall Street pour se faire réélire contre Romney en 2012.
And once again, the progressive neoliberal status quo was continued. The political classes continued to uphold this neoliberal consensus and failed to see in Occupy the first rumblings of an earthquake to come.
Et donc, là j'ai mal suivi.
Okay.
Bon, c'est pas mon boulot. Hein.
Je peux le dire très vite, c'est-à-dire que le deuxième terme de Obama continue encore le projet de néolibéralisme progressiste et les classes politiques n'ont pas vraiment compris qu'il y a en train de faire une sorte de
tremblement de terre.
Alors, that earthquake finally struck in 2015-16 as long simmering discontent suddenly shape-shifted into a full-bore crisis of political authority. In that election season, both major political blocs appeared to collapse. On the Republican side, Trump, campaigning on populist themes, handily defeated his 16 hapless primary rivals, including several that had been handpicked by the party bosses and major donors.
Alors, le tremblement de terre, le séisme, a eu lieu en fait en 2015-2016, lorsque le mécontentement a pris la forme d'une crise de l'autorité politique. C'est une époque où dans les deux grands blocs politiques, on n'était pas loin du collapse, de l'effondrement. Du côté républicain, Trump, en faisant campagne sur des thèmes populistes, a défait 16 rivaux, dont certains très soutenus par des grandes figures du parti, par des donateurs importants. Et côté...
On the Democratic side, Bernie Sanders, a self-proclaimed Democratic socialist, amazing to call oneself that in the United States, mounted a surprisingly serious challenge to Obama's anointed successor, Hillary Clinton, who had to deploy every trick and lever of party power to stave him off. On both sides, the usual scripts were upended as a pair of outsiders occupied the hegemonic gap and proceeded to fill it with new political memes.
Et donc, dans les deux camps, arrivent des gens qui challengent les candidats classiques. Côté démocrate, c'est Bernie Sanders, hein, qui est le challenger de Hillary Clinton, qui ne l'emportera qu'en déployant toutes sortes de trucs, d'astuces, et le pouvoir du parti. Bon. Mais des deux côtés, finalement, il se passe des choses qui ne correspondent pas au scénario habituel.
Both Sanders and Trump excoriated the neoliberal politics of distribution, but their politics of recognition differed sharply. Whereas Sanders denounced the rigged economy in universalist and egalitarian accents, Trump borrowed that very same phrase, but colored it nationalist and protectionist. Doubling down on long-standing exclusionary tropes, he transformed what had been mere dog whistles into full-throated blasts of racism, misogyny, Islamophobia, homo and transphobia, and anti-immigrant sentiment.
Alors, les deux, Sanders et Trump excoriated, ça veut dire dénonçaient les politiques néolibérales de distribution. Mais leur politique de reconnaissance différait beaucoup. Sanders dénonçait l'économie. Alors, reached.
Reached. Fact. Unfair.
Injuste.
It's like a card game that's fixed.
Ah oui, oui, une économie pipée. Voilà, les dés étaient pipés de cette économie, avec des accents universalistes et égalitaires. Et Trump, lui, utilisait la même chose, mais en colorant cette idée de nationalisme et de protectionnisme. Et donc, il transformait toutes ces questions en racisme, misogynie, islamophobie, homophobie, transphobie, anti-immigrés, hein, et la base...
Okay. This is important. The working class that Trump evoked was white, straight, male, and Christian, based in mining, drilling, construction, and heavy industry. By contrast, the working class that Sanders spoke of was broad and expansive, encompassing not only Rust Belt factory workers, but also public sector and service workers, where there was heavy representation of women, immigrants, and people of color.
Donc, les deux s'adressent à la classe ouvrière, mais de façon différente. Trump s'adresse à des gens qui sont des hommes, des mâles, blancs, chrétiens, et c'est surtout dans des industries très classiques, lourdes, dans la mine, dans la construction, ce genre d'industrie. Alors que la classe ouvrière à laquelle s'adressait Sanders était beaucoup plus large, et pas seulement donc dans ces industries classiques en chute. Et il s'intéresserait aussi aux gens du secteur public, aux gens qui travaillent dans des services, et pas seulement aux hommes, mais aussi aux femmes, aux immigrés et aux gens de couleur.
As a, to my mind, this is an extremely important difference between the two. And as a rhetorical projection of a possible counter-hegemony, it was Sanders' expansive view of the U.S. working class that most sharply distinguished his brand of populism from that of Trump.
Donc, ce qui caractérisait le mieux Sanders, hein, c'est donc qu'il s'intéressait aussi à une classe, il s'intéressait à une classe ouvrière américaine beaucoup plus large que Trump. Son populisme était donc s'adressait à une base beaucoup plus large.
Both outsiders sketched the outlines of a new common sense, but in different waves. At its best, it wasn't always at its best, Trump's campaign rhetoric suggested a new proto-hegemonic bloc, which we could call reactionary populism. It appeared to combine a hyper-reactionary politics of recognition with a populist politics of distribution. In effect, the wall on the Mexican border plus large-scale infrastructure spending aimed at creating jobs. The bloc Sanders envisioned, by contrast, was progressive populism. He sought to join an inclusive politics of recognition with a pro-working family politics of distribution. Criminal justice reform plus Medicare for all. Reproductive justice plus free college tuition. LGBTQ rights plus breaking up the big banks.
Donc, il faut distinguer Trump et Sanders, qui sont tous les deux populistes. Le populisme de Trump est réactionnaire. C'est la combinaison des politiques de reconnaissance qui sont hyper réactionnaires avec une politique de redistribution populiste. Si on veut, le mur à la frontière avec le Mexique, plus des grandes dépenses d'infrastructure. Sanders, lui, c'est un populiste progressiste, une politique de reconnaissance qui est inclusive, qui inclut, plus, avec des politiques favorables aux familles de travailleurs en matière de redistribution. Si l'on veut, Sanders, c'était une réforme de la justice criminelle et le Medicare, la sécurité sociale en matière de santé, pour tout le monde. C'était une justice reproductive, je ne sais pas exactement ce qu'est une justice.
Les droits reproductifs pour l'avortement, la contraception.
Le droit à l'avortement, à la contraception.
Le soutien pour les enfants.
D'accord. Et la gratuité des études au niveau universitaire. Les droits, si l'on préfère encore, les Français disent LGBT. Je crois que le Q n'existe pas en français.
Ah oui, queer.
Si, on le dit maintenant. On met aussi Q maintenant. Ah, bon. Mm-hmm. Plus, en finir, casser les grandes banques.
D'accord. Neither of those two scenarios actually materialized. Obviously, when Sanders lost the Democratic nomination to Clinton, the progressive populist option was removed from the ballot. That was not surprising. But the result of Trump's subsequent victory over Clinton was more unexpected, at least to some. Far from governing as a reactionary populist, the new president activated the old bait and switch, abandoning the populist distributive politics his campaign had promised.
Alors, tous ces scénarios ne se sont pas réalisés. Sanders a perdu face à Clinton, Hillary Clinton, et donc il a perdu cette option populiste progressiste était écartée du vote. La victoire plus ou moins inattendue de Trump sur Hillary Clinton n'a pas abouti à ce qui avait été, ce qui vient d'être décrit avant, mais non, il n'a pas gouverné comme un populiste réactionnaire, mais il a réactivé.
Vous avez cette expression en français, bait and switch. Ça veut dire vous attirez des gens, on leur promet une chose et vous changez le donne quelque chose d'autre.
Hein?
C'est comment?
C'est un appât, oui, alors... enfin bref, il les a attirés comme on attire pour ensuite faire autre chose. Pour ensuite faire autre chose, il a abandonné les politiques populistes de redistribution qu'il avait promis.
Bon, I will skip all these specifics.
Donc, elle pouvait le préciser, mais...
Okay. Having abandoned the populist politics of distribution, Trump proceeded to double down on the reactionary politics of recognition, hugely intensified and ever more vicious. The list of his provocations and actions in support of invidious hierarchies of status is long and chilling. Shall I list them all? The travel ban in all its various versions, all targeting majority Muslim countries. The gutting of civil rights at the Justice Department, at the Labor Department, the refusal to defend court cases on LGBTQ rights, the rollback of mandated insurance coverage of contraception, the retrenchment of civil rights protections for women and girls, public pronouncements in support of rougher police handling of suspects. Some of these are too specific to make sense here. But you will remember his support for the very fine people among the white supremacists who ran amok at Charlottesville. The result is no mere garden variety Republican conservatism, but rather a hyper-reactionary politics of neoliberalism.
Donc, d'un côté, Trump abandonne ses promesses populiste de redistribution, et d'un autre côté, elle donne toute une liste d'exemples, il développe une politique de reconnaissance qui est hyper réactionnaire, et elle en donne toute une litanie, toute une série d'exemples.
In other words, the voters, his voters, did not get what they voted for. The upshot is not reactionary populism, but hyper-reactionary neoliberalism.
Et donc, au lieu d'avoir un populisme réactionnaire, on se retrouve avec un néolibéralisme hyper réactionnaire. Et donc, ce n'était pas ce pourquoi il avait été élu.
Oui. Trump's hyper-reactionary neoliberalism does not constitute a new hegemonic bloc, in my view. It is rather chaotic, unstable, and fragile. That's partly because of his own, let's say, volatile psychology, and also due to his dysfunctional codependency with the Republican Party establishment, which is never sure whether it wants to continue with him and try to control him or dump him.
Alors, ce néolibéralisme hyper réactionnaire de Trump ne permet pourtant pas de dire qu'il y a un nouveau bloc hégémonique. C'est quelque chose, au contraire, de chaotique, d'instable. C'est dû en partie à sa psychologie personnelle, et c'est dû aussi en partie à sa relation de codépendance, oui, qui n'est pas fonctionnelle avec le Parti républicain et avec l'establishment du Parti républicain qui voudrait pouvoir le contrôler et qui n'y arrive pas.
Pas. But there's also a deeper problem. By shutting down the economic populist base of his campaign, Trump's hyper-reactionary neoliberalism, in effect, is trying to reinstate the very hegemonic gap he helped to explode in 2016. Except it's not clear that he can, or that anyone can, actually suture that gap. Now that the populist cat is out of the bag, it's unclear that that the working class portion of Trump's base will be satisfied to dine for long on recognition, or rather misrecognition, alone.
Donc là, il y a un problème de fond. C'est qu'en abandonnant son côté populiste en matière de distribution qu'il avait durant la campagne, le néolibéralisme hyper-réactionnaire de Trump donne l'image d'un retour au bloc économique qu'il avait fait exploser en 2016 dans sa campagne. Sauf que ce retour n'est pas possible, on ne peut pas suturer le fossé qui a été créé. Maintenant, elle dit que le chat populiste est sorti du sac. Il est peu vraisemblable que l'électorat blanc, working class, plutôt pauvre, qui avait voté pour Trump, cette base-là, va se satisfaire de ce qu'il propose maintenant.
On the other side, meanwhile, the resistance organizes. But the opposition is fractured, indeed deeply split between the Sanders wing and the Clinton wing of the Democratic Party, who are at war, fighting for control of the party.
Mais de l'autre côté, c'est pas beaucoup, c'est pas mieux. Il y a une bagarre très forte entre les partisans de Clinton et les partisans de Sanders, et il y a beaucoup de gens qui hésitent, si j'ai bien compris.
Especially troubling is the reappearance of an old tendency on the left to pit race against class. Some of the resistance proposes to reorient Democratic Party politics around opposition to white supremacy, focusing efforts on winning support from blacks and Latinos. Others defend a class-centered strategy aimed at winning back white working-class communities that defected to Trump. Both views are problematic, I think, to the extent that they treat attention to class and race as a zero-sum game. In reality, both axes of justice must be and can be attacked in tandem. Neither can be overcome while the other flourishes.
Alors, le problème entre les courants internes au Parti démocrate, c'est que certains disent qu'il faut réorienter la politique pour en finir avec la suprématie blanche au profit d'efforts vers les blacks, vers les latinos. Hein. D'autres disent au contraire qu'il faut une stratégie de classe et regagner ces blancs, ces ouvriers blancs que nous avons perdus et qui ont rejoint Trump, En réalité, quand on raisonne comme ça, c'est très problématique, parce que oui, on parle de classe et de race, mais en les opposant, et non pas en cherchant à les articuler.
Oui. In today's context, at least in the United States, proposals to backburner class pose a special risk. They are likely to dovetail with the Clinton wing's efforts to restore the status quo ante in some new guise. In that case, the result would be a new version of progressive neoliberalism, one that combines neoliberalism on the distributive front with a militant anti-racist politics of recognition. This prospect should give anti-Trump forces pause. On the one hand, it will send many potential allies running in the opposite direction, validating Trump's narrative and reinforcing his support. On the other hand, it will, in effect, join forces with him in suppressing alternatives to neoliberalism, thus in reinstating the hegemonic gap. But what I just said about Trump applies equally here. The populist cat is out of the bag and won't slink quietly away. To reinstate progressive neoliberalism on any basis is to recreate the very conditions that created Trump. And that means preparing the ground for future Trumps, ever more vicious and dangerous.
Donc, dans le contexte actuel, j'essaie de suivre, ça n'est pas évident.
Oui.
Dans le contexte actuel, il y a un risque énorme. D'un côté, les efforts de Clinton pour retrouver le statu quo qui existait auparavant, et dans ce cas-là, retrouver un néolibéralisme progressiste, combinant donc le néolibéralisme et une redistribution avec des politiques antiracistes de reconnaissance, mais cela risquerait de donner de l'air, enfin de la pause, à Trump. D'un côté, ça pourrait renvoyer vers Trump des gens qui étaient prêts à rester du côté de Clinton. Ça pourrait valider en quelque sorte le discours de Trump, renforcer. Et d'un autre côté, cela pourrait faire que se rejoignent avec lui des forces, c'est là où j'ai pas bien compris, qui reconstituerait. C'est là que je comprends mal. Hein.
Je dirais que c'est le néolibéralisme progressiste qui a créé les conditions qui ont rendu possible Trump. Si on restaurait le néolibéralisme progressiste,
on redonne
dans le cercle vicieux.
Voilà. Donc, autrement dit, le raisonnement, c'est si on retourne avec Hillary Clinton au modèle progressiste néolibéral,
même avec un militant anti-racisme de reconnaissance.
Plus de reconnaissance, mais on redonne, revit en symétrique en quelque sorte, on redonne de l'espace à Trump pour retrouver sa base raciste,
ouais,
etc. Mais il faut aussi dire que sur Trump, que puisque le populisme est maintenant dans l'air du temps et qu'il ne disparaîtra pas comme ça, redonner donc de la vitalité au néolibéralisme progressiste, c'est recréer les conditions qui ont permis à Trump d'exister. Et ça veut dire qu'on prépare la suite pour un Trump qui serait encore peut-être plus vicieux et plus dangereux. Donc on attend de voir comment Trump peut être encore plus vicieux et plus dangereux.
On peut dire plus consistant, organisé, capable. OK. Bon, j'argumente que il n'y a pas d'hégémonie possible maintenant, soit chez néolibéralisme progressiste, soit néolibéralisme réactionnaire ou hyper-réactionnaire. Et bon, alors, quelle autre possibilité? Le speaking French. I mean to speak English.
I like it. I like it. But you can speak English.
The most likely candidate for an alternative is one form or another of populism. What speaks in favor of a populist hegemony in the United States is the fact that between the supporters of Sanders and those of Trump, something approaching a critical mass of US voters rejected the neoliberal politics of distribution in 2015-2016. The burning question is whether that mass could now be melded together in a new counter-hegemonic bloc. For that to happen, working class supporters of Trump and of Sanders would have to come to understand themselves as allies, as differently situated victims of a single rigged economy which they could jointly seek to transform.
Alors, qu'est-ce qui pourrait faire du autre chose que du populisme une option pour l'avenir? En réalité, ce qui parle en faveur de cette idée du populisme et non plus du pour une contre-hégémonie, c'est que parmi les supporters de Sanders comme de Trump, il est apparu quelque chose qui approche la masse critique des électeurs américains rejetant les politiques néolibérales de redistribution. Et donc, la question est de savoir si cette masse critique pourrait se transformer en un nouveau bloc contre-hégémonique. Donc, ces gens qui ont été pour, qui veulent une autre redistribution, aussi bien chez Sanders que chez Trump, est-ce qu'ils ne pourraient pas former un nouveau bloc contre-hégémonique? Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils se trouvent, qu'ils se considèrent désormais comme alliés. Des gens qui ont des problèmes, des victimes qui se sont situées différemment, des victimes de l'économie qui se sont situées différemment, mais qui peut-être pourraient se rapprocher. Vous voyez l'idée, hein, c'est l'hypothèse d'un rapprochement d'une partie de l'électorat de Trump et d'une partie de l'électorat de Sanders sur une base populiste et de redistribution.
Les fractions classe ouvrière et classe moyenne de ces deux blocs. It's obvious that a reactionary populism, even without Trump, it cannot be the basis for such an alliance because it is exclusionary and simply repels the important social forces that this bloc needs if it's to succeed.
Donc ce populisme réactionnaire, même sans Trump, le populisme réactionnaire, même sans Trump, ne peut pas servir de base pour l'alliance dont il est question, parce qu'il il a des politiques hiérarchiques d'exclusion en matière de reconnaissance qui sont un obstacle qui ne serait pas accepté par une partie de ce monde du travail.
Les larges secteurs. Qui est non blanc, non masculin.
Toutes ces familles, par exemple, qui dépendent dans le domaine du service, de l'agriculture, du travail domestique, du public secteur, avec beaucoup de femmes, d'immigrés et des gens de couleur.
So, I suggest that progressive populism is the likeliest candidate, at least in theory, for a new counter-hegemonic bloc. It would have to combine egalitarian redistribution and non-hierarchical recognition, and in that way, has at least a fighting chance of uniting the whole working class. More than that, it could position that class, understood in the broad sense, a la Sanders, as the leading force in an alliance that also includes substantial segments of youth, the middle class, and progressive managerial stratum who can be won over.
Et donc, ça laisse la possibilité de développer l'hypothèse d'un nouveau bloc contre-hégémonique qui se constituerait sur une base de populisme progressiste, qui combinerait redistribution égalitaire et reconnaissance, politique de reconnaissance non hiérarchique. Et donc, c'est ce qui permettrait de réunifier toute la classe des travailleurs, toute la classe ouvrière, et qui pourrait mobiliser aussi des segments importants de la jeunesse, des couches moyennes et des gens qui sont des qu'on appelle des professionnels.
Of course, there is a great deal in the current situation that speaks against this possibility anytime soon. That is basically the toxic environment created in part by Trump that appears to validate the view held by some progressives that all Trump voters are deplorables, that was Hillary Clinton's term, irredeemable, racist, misogynist, and homophobes. Also reinforced is the converse view held by many reactionary populists that all progressives are incorrigible moralizers, smug elitists who look down on them while sipping lattes and raking in the bucks.
Alors la difficulté, c'est que le contexte, l'environnement est toxique. Si on va aller dans ce sens, parce que du côté des progressistes, on dit que tous les électeurs de Trump sont racistes, misogynes, homophobes, etc., de façon incorrigible, et de l'autre côté, du côté Trump, je dirais, que tous les gens qui sont progressistes sont des gens qui passent leur temps à faire la morale, c'est des élitistes, enfin, des critiques qui, des deux côtés, rendent la rencontre impossible.
Right. Yeah. The prospects for progressive populism in the United States today depend on combating both of those views. What is needed, I think, is a strategy of separation aimed at precipitating two major splits. First, the mass of less privileged women, immigrants, and people of color have to be wooed away from the lean-in feminists, the meritocratic anti-racists and anti-homophobes, and the corporate diversity and green capitalism shills who hijacked their concerns, inflecting them in terms consistent with neoliberalism.
Alors, si on veut essayer de réfléchir à ce populisme progressiste, il faut combattre les obstacles qu'elle avait évoqués juste avant, et d'abord encourager, précipiter deux ruptures majeures. Mm-hmm. Premièrement, la masse des femmes, des femmes non privilégiées, des migrants, des gens de couleur doit être pas protégée, mais séparée, tenue à l'écart, séparée de tout ce qui a été dit à propos du féminisme, enfin par les féminismes
méricotopes. Le corporate féminisme.
Corporate féminisme. Bon, enfin bref, de tous ces discours qui ont en réalité kidnappé les sentiments antiracistes, anti-homophobes, etc., pour les ajuster au néolibéralisme. Hein, tous ces efforts qu'elle évoquait au début de sa conférence, hein, pour montrer comment le néolibéralisme a pu s'annexer des pans entiers de tous ces mouvements féministes, antiracistes. Donc ça, il faut en finir avec ça. C'est la
première chose. So that's the first split. Second, Rust Belt, Southern and rural working class communities have to be persuaded to desert their current crypto neoliberal allies. The trick is to convince them that the forces promoting militarism, xenophobia, and ethno-nationalism cannot and will not provide them with the essential material prerequisites for good lives, whereas a progressive populist bloc just might. In that way, one might separate those Trump voters who could and should be responsive to such an appeal from the card-carrying racists and alt-right ethno-nationalists who are not. The former outnumber the latter by a wide margin. Let me interject that 8.5 million Americans who voted for Trump in 2012, sorry, who voted for Obama in 2012, in the Rust Belt voted Trump in 2016. What oui. This shows me is they are not principled racists.
Donc 8 millions et demi de ceux qui avaient voté Obama dans ces Rust Belt, dans cette région,
2012,
en 2012, 8 millions et demi ont voté pour Trump le coup d'après, ce qui veut dire que ce n'est pas le racisme qui était leur...
I wouldn't say they're not racist, but they're not principled, hardcore racist. They're opportunists. They'll go with whoever, you know, addresses their economic concerns.
Okay. Donc, c'est pas qu'ils soient pas du tout racistes, peut-être, mais c'est pas le racisme n'est pas le cœur de leur démarche politique. Hein, c'est ça.
Perfect.
Donc, donc il faut maintenant donc la deuxième séparation à laquelle il faut veiller, c'est dissocier cette population ouvrière, la dissocier des idées de leurs alliés néolibéraux, et donc les convaincre que tout ce qui est xénophobie, militarisme, ethno-nationalisme, c'est pas ça qui leur apportera de quoi mieux vivre, et qu'il faut donc en finir avec leur adhésion à cette rhétorique de Trump.
In other words, I'm suggesting that it's wrong to assume at the outset that the overwhelming majority of reactionary populist voters are forever closed to appeals on behalf of the expanded working class of the sort evoked by Bernie Sanders. That view, I think, is empirically wrong, as the election data now show us, and it's also counterproductive, likely to be self-fulfilling.
Oui. Alors, ça ne veut pas dire que... tout simplement, il faut bien avoir en tête l'idée que ceux qui ont voté, la grande majorité de ceux qui ont voté en termes réactionnaires et populistes, sont pour toujours incapables d'accepter les idées qui renvoient à l'image d'une classe ouvrière beaucoup plus large du type de celle qu'évoquait Sanders. Bon, l'idée qu'il y a un fossé irréductible, cette idée, elle est empiriquement fausse et contre-productive. Mais elle peut fonctionner comme une prophétie autoréalisatrice.
I want to be clear, I am not suggesting that a progressive populist bloc should mute pressing concerns about racism, sexism, homophobia, Islamophobia, and transphobia. On the contrary, the fight against all of those harms has to be central to a progressive populist bloc. But again, it is counterproductive to address them through moralizing condescension in the mode of progressive neoliberalism. That approach, which I think is very widespread in the US, with this intense interest in microaggressions, that approach assumes a shallow and inadequate view of these injustices, grossly exaggerating the extent to which the trouble is inside people's heads, and missing the depth of the structural institutional forces that undergird them.
Alors, il ne faut pas se tromper de combat. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'il faut abandonner la lutte antiraciste, antisexiste, etc. Pas du tout. Mais qu'il faut, au contraire, en faire un élément central d'un bloc populiste progressiste, mais en sachant qu'il est contre-productif, de le faire de façon morale, condescendante, comme l'avait fait le néolibéralisme progressiste, et qu'il ne faut pas exagérer l'idée que la question elle est dans la tête des gens. La question elle est aussi et d'abord enracinée dans des logiques structurelles, dans des forces structurelles et institutionnelles. Et yeah. C'est ces forces-là qui font fonctionner.
It should be the central focus of a progressive populist politics.
Populiste progressif devrait se focaliser sur ces problèmes institutionnels. institutionnels et structurels.
This point is especially clear and important in the U.S. in the case of race, which is basically our national tragedy. Racial injustice in the U.S. today is not at bottom a matter of demeaning attitudes or bad behavior, although these surely exist. The crux is rather the racially specific impact of deindustrialization and financialization in the period of progressive neoliberal hegemony as refracted through long histories of systemic oppression. In this period, Black and Brown Americans who had long been denied credit, confined to inferior segregated housing, and paid too little to accumulate savings were systematically targeted by purveyors of subprime loans and experienced the highest rate of home foreclosures in the country. I'll stop there.
Donc, la question est très claire s'il s'agit des questions de racisme. Le problème n'est pas, je vais le dire très vite, mais un problème de préjugés ou d'attitude ou de comportement, même si ça existe, bien sûr. Le problème crucial, c'est l'impact de la désindustrialisation et de la financiarisation à l'époque donc de l'hégémonie néolibérale progressiste. Et cet impact, on peut le regarder en regardant comment les Noirs américains n'ont pas eu accès, comme les autres, au crédit, n'ont pas pu faire l'économie ou convenablement, se sont retrouvés pris dans les logiques de subprimes qui ont abouti à la grande crise, etc. Et donc, le problème est économique et social.
In this period too, minority towns and minority neighborhoods, which had long been systematically starved of public resources, were hit hard by plant closings. Their losses reckoned not only in jobs, but also in tax revenues, which deprived them of money for schools, hospitals, basic infrastructural maintenance, leading especially to debacles like Flint, Michigan, where the water was poisoned, I'd say overwhelmingly black city, and to the horrendous destruction of the lower Ninth Ward of New Orleans during Hurricane Katrina. These are all infrastructural disasters that were specifically exacerbated for minority populations.
Voilà, donc quand des populations, des minorités habitent dans des villes, des villages, des endroits frappés de plein fouet par la désindustrialisation, la financiarisation, ça, ça a un impact direct sur eux, mais ça a aussi un impact sur les communes municipales, les communes locales, sur la capacité de prélever des impôts pour ensuite faire vivre les écoles, l'éducation, le logement, etc. Autrement dit, l'impact structurel va au-delà de l'impact sur chaque individu, ou vient le renforcer, elle en donne un certain nombre d'exemples.
Finally, black men, long subject to differential sentencing and harsh imprisonment, coerced labor and socially tolerated violence, including at the hands of police, were in this period of progressive neoliberalism massively conscripted into a prison industrial complex, kept full to capacity by a war on drugs and by high rates of unemployment, all courtesy of essentially Bill Clinton. Need one add that, inspiring though it was, the presence of an African American in the White House failed to make a dent in these developments.
Donc, elle ajoute à cette question la question des prisons, et donc le fait
la violence de police,
la violence de la police, tout ça renforcé par une soi-disant guerre contre la drogue, contre les drogues, et en même temps le taux élevé de chômage et tous ces arrangements orchestrés par Bill Clinton qui ont rendu cette situation.
Crime reform legislation that created all this was Clinton. Donc, another one of Clinton's achievements.
C'est Clinton qui a eu la responsabilité de toutes ces réformes qui ont renforcé ces tendances. Et alors la question c'est, est-ce que la présence d'un Afro-Américain à la Maison-Blanche a manqué, n'a pas
changé rien.
A changé quelque chose à ces développements.
What I'm trying to suggest is the depth at which racism is anchored in contemporary capitalist society and the inability of progressive neoliberal moralizing to overcome it. I'm trying to suggest that the structural bases of racism have as much to do with class and political economy as with status and misrecognition. The forces that are destroying the life chances of people of color are part and parcel of the same complex of forces that are also destroying the life chances of whites, even if some of the specifics differ.
Donc, l'idée, c'est qu'en réalité, les forces qui affaiblissent les chances des gens de couleur d'accéder à une vie normale, disons, sont les mêmes que les forces qui détruisent les chances que peuvent avoir les blancs de participer aussi à cette vie normale, moderne. Même s'il y a des différences.
Peut-être que je oui, saute à la fin. Mm-hmm. I also argue here that progressive populism, on the one hand, has the capacity, at least in theory, to bring together the social forces in a new counter-hegemonic bloc, but also it has the capacity to actually make the changes that are required to reach down into this structural and institutional level, which is the objective side of the crisis.
Et donc, l'avantage de ce bloc populiste auquel qu'elle analyse aujourd'hui, auquel elle réfléchit, c'est bon, d'abord de rassembler des gens qui pour l'instant étaient opposés, et deuxièmement, et c'est ça la chose la plus importante, ce bloc devrait être capable de mener des politiques qui vont jusqu'au fond de ces enjeux structurels, institutionnels, et donc d'atteindre vraiment les racines profondes des problèmes actuels.
It's impossible to say at this point whether such a thing can come to pass and what it might actually do in power. Nevertheless, if we fail to pursue this strategy now of building a progressive populist counter-hegemony, we will prolong the present interregnum. And that means condemning working people of every persuasion and every color to mounting stress and declining health, to ballooning debt and overwork, to class apartheid and social insecurity. It means immersing them, too, in an ever more vast expanse of what Gramsci called morbid symptoms, hatreds born of resentment and expressed in scapegoating, outbreaks of violence followed by bouts of repression, a vicious dog-eat-dog world where solidarities contract to the vanishing point.
Donc, si on n'arrive pas à aller dans ce sens de ce populisme progressiste, alors la situation actuelle se prolongera avec tous les dégâts pour ce monde du travail, qu'il s'agisse de sa santé, de la dette, du surtravail de certains, de l'apartheid social, de l'insécurité. Enfin, toutes ces questions ne seront pas réglées. Et on se retrouvera avec ce que Gramsci appelle des symptômes morbides de la haine, du ressentiment, de la recherche de boucs émissaires, de la violence, suivie d'une répression et de l'épuisement de tout ce qui fait la solidarité. Et donc,
to avoid that fate, I think we must break definitively both with neoliberal economics and with the various politics of recognition that have lately supported it, casting off not just exclusionary ethno-nationalism, but also liberal meritocratic individualism. Only by joining a robustly egalitarian politics of distribution to a substantively inclusive, class-sensitive politics of recognition, can we build a counter-hegemonic bloc that could lead beyond the current crisis to a better world?
Et donc, la conclusion est très, très claire. Nous devons en finir, nous devons rompre avec ces politiques économiques néolibérales et avec les différentes politiques de reconnaissance qui les ont accompagnées et soutenues. Non seulement nous devons donc rompre avec l'ethno-nationalisme, nous devons rompre aussi avec l'individualisme libéral méritocratique.
C'est ça.
Ces mots, parfait. Nous avons besoin de politiques égalitaires, de redistribution très inclusive, sensible aux dimensions de classe en ce qui concerne une politique de reconnaissance. Et c'est comme ça que pourrait être construit un bloc contre-hégémonique qui nous permettrait de sortir de la crise actuelle pour aller vers un monde meilleur.
Ça y est.
Merci beaucoup.
Merci.